Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Merci, merci, mes frères et sœurs de l'équipe des louanges. Merci pour ce travail merveilleux et que le ciel vous bénisse richement pour tout ce que vous faites pour la gloire du nom de celui qui vit d'éternité en éternité. Nous allons alors nous incliner dans la prière. Père, nous voulons te dire merci. Tu es le roi de l'univers, tu es le Dieu fidèle. Tu nous as connus de la fondation du monde et tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Fais-nous grâce maintenant que nous puissions partager ta parole avec assurance et que nous puissions impacter le cœur de ton peuple pour le préparer, Seigneur, au rendez-vous des airs. Ainsi, lorsque tu vas apparaître, nous tous nous pourrions jubiler à tes pieds et confesser que tu es notre roi. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons tourner les pages de nos Bibles dans Luc chapitre 10. Nous allons lire du 30e au 37e verset. Luc chapitre 10, 30 à 37, c'est la parabole du bon samaritain que nous connaissons nous tous. La Bible dit ceci, que Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi aussi fais de même. Merci. Le message de ce matin a pour titre « La compassion est une vertu ». Je répète, le message a pour titre « La compassion est une vertu ». Philippiens chapitre 4 verset 8 dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et comme la compassion est une vertu, Et que l'apôtre Paul nous révèle ici que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. J'aimerais vous encourager ce matin que la vertu de la compassion puisse être l'objet de vos pensées. Et mon objectif est de vous sensibiliser ce matin, sensibiliser tous les enfants du royaume à avoir de la compassion envers leurs semblables. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à développer ce qui était dans le cœur de notre Seigneur, à développer l'esprit de compassion en votre qualité d'enfant du royaume et à avoir toujours de la compassion envers tous vos semblables. Dans cette parabole que nous venons de lire, qui est en fait la réponse que Jésus donne à un docteur de la loi qui est venu le voir et qui, en cherchant à l'éprouver, lui a posé une série de questions et Jésus lui a répondu. Et la dernière question de la série, c'est de savoir qui est mon prochain. Et le docteur de la loi avait besoin de savoir qui est son prochain. Mais le maître, au lieu de lui dire que votre prochain, c'est celui qui est assis à côté de vous, ou c'est celui qui est quelqu'un de votre tribu, ou c'est celui qui est un ministre de Dieu à côté de vous, le maître a préféré lui répondre par une parabole et il lui a reposé la question à la fin de la parabole pour que lui-même puisse répondre et il a bien répondu à la question. Dans la parabole, le maître lui dit ceci. Un homme voyageait. Il était parti de Jérusalem et il se rendait à Jéricho. En cours de route, il a été victime d'une attaque barbare des bandits. Les bandits l'ont dévalisé. Ils lui ont confisqué tout ce qu'il possédait. Mais au lieu de le laisser s'en aller en vie, deux, ils ont décidé de le frapper sérieusement avec l'intention de le tuer. Ils l'ont blessé et quand ils se sont rassurés qu'il était complètement fini, ils se sont sauvés et ils sont partis. La Bible dit que dans les minutes qui ont suivi, dans les heures qui ont suivi, il y a un sacrificateur qui est passé par le même chemin. Mais en levant les yeux, il a vu cet homme qui gisait à terre dans un bain de sang. Mais le sacrificateur a choisi volontairement de s'éloigner de la rue, d'aller à l'autre côté de la rue et de faire semblant comme s'il n'avait rien vu et de partir. Ce que la Bible dit, il a décidé de passer outre. Mais c'était un sacrificateur, c'est-à-dire un ministre de Dieu. Un prédicateur de la bonne nouvelle du royaume, établi par Dieu sur son peuple, pour lui enseigner l'amour, pour lui enseigner la justice. Mais lorsqu'il a vu que cet homme gisait dans le bain de sang, il a décidé de fermer les yeux pour ne pas voir. La Bible poursuit et dit que, quelques temps après, un lévite, le lévite c'est le collaborateur du sacrificateur, dans l'exercice du ministère, il est aussi un prédicateur de la parole, un serviteur de Dieu, celui qui est établi sur le peuple, celui qui doit être le modèle du peuple de Dieu. Et lorsque le lévite passe aussi par là, exactement comme son frère, le sacrificateur, il a choisi de fermer les yeux pour ne pas voir le pauvre homme. Et il est passé lui aussi. Mais voilà qu'il y a un troisième personnage qui passe par là, qui lui voyageait. Il était censé être pressé pour aller là où il s'est dirigé. Il était en voyage. Et cet homme, c'était un Samaritain, c'est-à-dire un païen, quelqu'un que les Juifs considèrent comme un païen, un hors la loi. Mais voilà que cet homme va s'arrêter. Il va descendre de sa monture. Il va s'approcher de ce monsieur qui était tabassé par les bandits et qui était entre la vie et la mort. La Bible dit, il va le secourir. Frères et sœurs, je dis que nous parlons aujourd'hui de la compassion. Je veux vous dire que l'objectif de notre Seigneur, à travers cette parabole, c'est d'encourager l'Église, d'encourager les enfants du royaume à développer l'esprit de passion, de compassion les uns envers les autres. Le mot compassion provient du mot latin qui est un mot composé aussi de deux mots, cum, qui signifie avec, une préposition qui signifie avec, et pati ou patior, souffrir. Cela signifie littéralement compatir, avoir de la compassion pour quelqu'un, c'est souffrir avec ce quelqu'un-là. En d'autres termes, et de façon plus précise, ce mot désigne le sentiment par lequel on est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance des autres. Je m'explique bien que lorsqu'on dit que j'ai de la compassion, c'est un acte qui monte du fond de votre cœur. Et lorsque vous regardez quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans une douleur quelconque, quelqu'un qui est dans une situation de détresse, immédiatement, vous faites une projection dans la vie de cet homme. Vous commencez à ressentir ce qu'il ressent. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous essayez de vous mettre à sa place. Et vous vous dites, par exemple, que ce frère vient de se briser la jambe. S'il m'était arrivé, moi, de me briser la jambe, qu'est-ce que je ressentirais dans mon cœur? Et vous commencez à projeter ce que le frère ressent et vous le ressentez effectivement dans votre cœur. Vous sentez que vos entrailles sont en train de bouger, vos entrailles sont en train d'être remuées parce que apparemment vous vivez la même douleur que la personne que vous voulez secourir. Ça, c'est le point de départ pour parler de la compassion. Donc, ce sentiment qui va vous pousser à percevoir les souffrances de quelqu'un d'autre, a envie de lui venir en aide, a envie de le secourir. Lorsque le Samaritain passait, quand il a vu cet homme qui gisait à terre dans le sang, il s'est mis à sa place. Il a commencé à souffrir comme si c'était lui qui était attaqué par les bandits. Et il s'est dit, qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'on fasse de moi si je me trouvais dans une situation semblable? C'est que j'aurais aimé qu'une personne vienne me secourir. Alors, il a quitté sa monture, il est descendu pour secourir la personne qui était en détresse. Cette souffrance peut être soit une maladie. Lorsque nous avons de la compassion envers un malade, c'est que nous essayons de nous projeter en lui pour essayer de saisir comment est-ce que mon frère malade se sent. Il est à l'hôpital, il a peut-être l'insuffisance rénale, il est en train de se tordre de douleur, en train de pleurer. Vous voulez l'aider, vous voulez lui venir en aide. Mais pour bien lui venir en aide et compatir avec lui, il vous faut premièrement d'abord sentir ce que lui ressent. Vous vous dites, quand moi j'ai mal aux dents, je souffre atrocement. Et comme lui a mal au cœur, c'est qu'il souffre encore plus. Vous avez pitié de lui. Et vous vous approchez de lui pour pouvoir le secourir. Cette douleur ou la situation difficile qu'il traverse, ça peut être la mort. Ça peut être un décès qui est survenu dans la famille. Vous vous demandez comment est-ce que ce frère se sent, lui qui vient de perdre son mari, lui qui vient de perdre sa femme, lui qui vient de perdre son enfant. Si moi, en tant qu'homme, je perdais quelqu'un de ma famille, comment je me sentirais? Non, ce frère a le cœur déchiré. Et lorsque vous allez le voir, vous vous approchez aussi avec un cœur déchiré et vous allez lui venir en aide. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Ça peut être un divorce. Lorsque mon frère, ma soeur, est en train de vivre une situation de divorce, moi, je suis un homme marié. Qu'est-ce que je ressentirais si ma femme me quittait? Qu'est-ce que je ressentirais si mon mari me quittait? C'est que je me trouverais très mal en point, j'aurais de la douleur dans mon cœur. Alors, ça va me pousser à avoir de la compassion de quelqu'un qui se trouve dans des conditions similaires. Peu importe la douleur que quelqu'un travaille et traverse, ça peut être le chômage, ça peut être le manque de papier d'établissement. Qu'est-ce que moi, je ressentirais dans mon cœur si aujourd'hui je n'avais pas de papier? Frères, sœurs, lorsque on n'a pas de compassion, n'est-ce pas? C'est alors qu'on se met à se moquer de quelqu'un. C'est alors qu'on se met à murmurer contre quelqu'un. C'est alors qu'on se met à saboter quelqu'un. C'est alors qu'on dit, comme disent ceux qui parlent le Lingala, que Azui. Quand vous dites que Azui, c'est-à-dire il a senti c'est bon, cela prouve dans ce même mot que vous êtes loin d'être compté parmi les enfants du royaume. Les enfants du royaume doivent avoir le cœur semblable au cœur de leur père. Et le cœur de notre Dieu, c'est un cœur de compassion, un cœur de miséricorde. C'est par compassion que Dieu nous visite dans le monde. C'est par compassion que Dieu a enlevé nos péchés. Nous étions sur le chemin de la mort. Mais il est venu vers nous justement parce qu'il a eu pitié de nous, par compassion. C'est par compassion qu'il est descendu en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël de la colonisation des Égyptiens. La compassion, frères et sœurs. Lorsque le Samaritain a vu cet homme qui gisait dans le bain de sang, il est descendu de sa monture par compassion. Et il est allé le secourir par compassion parce qu'il reconnaissait en lui-même que la compassion est une vertu. La compassion est une vertu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, frère, la compassion est une vertu? La compassion est une vertu. La compassion, c'est vraiment une vertu. La première chose que j'aimerais fixer dans votre esprit est que la compassion rapproche. C'est-à-dire, en d'autres termes, que une personne qui a la compassion, c'est une personne qui sait s'approcher de ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas une personne qui vit dans l'indifférence. Lorsque nous regardons au verset 31, la Bible nous dit que parce que le Samaritain avait de la compassion, juste quand il a vu cet homme qui gisait dans le bain de sang, le premier geste, pas, il s'est approché de lui. Frères, sœurs, la vocation d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de vivre dans l'indifférence. La vocation d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de vivre isolé, de vivre en solo, de vivre seul. La foi chrétienne n'a pas pour vocation de vivre seul, mais la foi chrétienne, c'est une foi communautaire. La vocation d'un enfant de Dieu, c'est de développer le réflexe de s'approcher de son frère, de s'approcher de sa sœur, surtout s'il est dans le besoin, sans se poser des questions. S'il va me recevoir ou s'il ne va pas me recevoir, il est dans le besoin, nous devons nous approcher. Nous devons apprendre, frères et sœurs bien-aimés, en tant qu'Église, à s'approcher, à nous approcher les uns auprès des autres. C'est alors que nous serons à mesure de percevoir ce que mon frère ressent, de percevoir ce que ma sœur ressent et de savoir dans quelle mesure je peux maintenant lui venir en aide. La première chose, la toute première chose que nous devons retenir, c'est que la compassion rapproche. Ne sois pas indifférent, frère. Ne sois pas surtout indifférent à la souffrance de quelqu'un d'autre. Ne te moque pas. Ne quitte pas un ami parce qu'il souffre. Il y en a qui sont amis quand tout va bien. Mais dès que quelqu'un perd le travail, par exemple, dès que quelqu'un perd son mari, rapidement on voit les démons. Oh non, 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 non. Lui là a un démon. Comment est-ce que son mari est parti? Lui là a un démon. Comment est-ce qu'il a perdu du travail? Non, frère. Job dit que celui qui souffre a droit à la compassion. Quand bien même il aurait abandonné même Dieu. C'est-à-dire, même s'il a abandonné Dieu, Mais quand il souffre, il a droit à la compassion de ses amis. Le cœur de Dieu. Lorsque nous le possédons, mon frère, ma soeur, nous allons exprimer notre compassion. Nous allons souffrir avec ceux qui souffrent. Voilà pourquoi la Bible dit que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et souffrez avec ceux qui souffrent. Mais nous retenons toujours la première partie du verset. Quand il y a fête, nous sommes rapides, les premiers à être là. La Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui vous réjouissent. Nous chantons et nous dansons toute la nuit, nous mangeons. Mais quand cette même personne est éprouvée, nous commençons à calculer pour descendre. Même le téléphone, juste pour appeler frère, soeur, vous êtes loin. Je suis avec vous, je suis votre frère. Je partage la même douleur avec vous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous avons l'esprit de compassion, la toute première chose, nous devons apprendre à nous approcher les uns des autres. Le sacrificateur a été indifférent à la souffrance de son frère. Le Lévite a fermé les yeux. Il y a des gens qui choisissent de fermer les yeux juste parce que son frère est tombé dans la détresse. Il y a des gens qui brisent même des amitiés parce que son frère a perdu la position qu'il occupait. Si vous avez été mon ami quand j'avais des millions, et lorsque je perds les millions, vous cessez d'être mon ami. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous aviez aimé mes millions. Quand mes millions sont disparus, votre intérêt est parti aussi. Il y a un écrivain qui a dit que si on m'aime pour mon langage, pour ma beauté, pour mon argent, est-ce qu'on m'aime? Point d'interrogation. Et il a répondu en disant que non, parce que je peux perdre mon argent sans me perdre moi-même. Je peux perdre ma beauté sans me perdre moi-même. Il y a quelqu'un qui parlait avec moi, un serviteur de Dieu, qui m'a dit, frère, papa, pasteur, quand j'expliquais aux gens ces choses, je leur ai dit, vous êtes vous, mais vous êtes différent de votre corps. Pour preuve, vous pouvez perdre votre jambe aujourd'hui, mais vous continuerez à être appelé Jean-Marie Kafka. C'est-à-dire que le « vous » va exister même sans jambes. Le corps, c'est une autre chose et vous, c'est une autre chose. Mais si vous m'aimez parce que j'ai des jolies jambes, et demain dans un accident, je perds mes deux jambes, qu'est-ce que vous allez encore aimer de moi? C'est fini parce que les jambes que vous aimiez sont parties et par voie de conséquence, votre amour aussi disparaît. Non. Dieu veut que nous puissions avoir de la compassion, aimer l'autre tel qu'il est et lui venir en aide quand il traverse la détresse. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est que la compassion pousse à l'action. Très important. Première chose, la compassion approche. Deuxième chose, la compassion pousse à l'action. En d'autres termes, une personne qui a de la compassion est une personne qui sait poser des gestes concrets. La Bible nous dit au verset 34 que le Samaritain s'est approché de lui. Il a bandé ses plaies. Ça, c'est une action concrète, un geste concret. 2. Il y a versé de l'huile et du vin. 3. Il a mis ce malheureux sur sa propre monture. 4. Il l'a conduit à une hôtellerie et il a pris soin de lui. On peut bien dire que j'ai de la compassion. On peut bien dire que frère, moi j'ai de la compassion, j'ai de l'amour. C'est une bonne chose. Mais la compassion ne reste jamais théorique. Lorsque vous approchez, je parlais bientôt tantôt du verset 31, non c'est au verset 34, quand vous approchez de quelqu'un, ça ne suffit pas. C'est le premier pas que vous posez quand vous avez la compassion. Hein, maman Sylvie? Mais lorsque vous approchez, quand vous avez la compassion, quand vous approchez, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez poser un geste concret qui doit soulager la douleur ou la souffrance de votre frère, de votre soeur.
Amen.
Lorsque ce Samaritain s'est approché, hein, mon frère Victor, quand le Samaritain s'approche, rapidement, il commence à poser des gestes concrets. Nous devons poser des actions fermes. Lorsque quelqu'un, par exemple, est éprouvé, quand vous vous approchez de lui, quelle action que vous pouvez poser pour prouver que vous avez de la compassion envers lui? Ça peut être une accolade. Ça peut être un cadeau. Ça peut être même une coulée d'armes, des larmes. Donc, vous êtes proche de même le tenir dans le bras sans rien dire. Ça prouve que j'ai compati à la souffrance que vous avez. Si quelqu'un est malade, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez poser comme geste, comme action? Vous pouvez l'appeler au téléphone. Vous pouvez lui dire un mot d'encouragement. Vous pouvez le visiter sur place. Vous pouvez faire quelque chose pour lui. Nous avons des gens qui sont malades à l'église. Même si vous passez par un McDo, vous payez les fils qu'un hamburger, même s'il n'a pas l'habitude de manger un hamburger, vous lui dites, frère, je suis pressé, est-ce que tu peux prendre ça? C'est un geste concret qui accompagne. Frère, sœur, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous sommes les enfants du royaume. Nous devons développer les vertus qui étaient dans notre Seigneur. Et c'est ça l'évangile. Quand la Bible dit que enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, ce que le maître a prescrit, c'est ça. Soyez compatissants les uns envers les autres. C'est-à-dire, apprenez à rentrer dans la souffrance de votre frère parce que nous sommes frères. Si la Bible dit de nous que nous sommes les membres d'un même corps, cela implique que si un membre est malade dans le corps, tous les autres membres doivent ressentir la douleur. Si vous ne ressentez pas la douleur, c'est que vous n'êtes pas dans ce corps. Si aujourd'hui vous avez mal aux dents, même vos mains ne peuvent pas donner une gifle à quelqu'un. Rassurez-vous. Il y a des gens qui ont mal aux dents, ils ne peuvent même plus manger. Même le ventre rentre en gêne, ils refusent de manger. Pour compatir avec les dents. C'est exactement la même chose en tant que peuple de Dieu. Lorsqu'un frère, une sœur a un problème, un frère, une sœur a une douleur, un frère, une sœur est dans le besoin, il nous appartient en tant que ses frères, ses sœurs, de ressentir ce qu'il ressent pour que nous puissions nous venir en aide. C'est par compassion que Jésus-Christ a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. La Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 13, que le Seigneur, l'ayant vu, donc ayant vu cette femme, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Jésus passait. Lorsqu'il est entré dans la ville de Naïm, il a trouvé, il a rencontré, il a croisé un cortège qui allait mettre en terre le fils unique d'une femme qui était veuve. D'abord, en tant que veuve, elle était regardée comme une personne de seconde classe en Israël. Mais maintenant qu'elle va perdre encore son fils, tout le village dirait qu'elle est sorcière. Et elle pleurait à chaudes larmes. La Bible dit que Jésus, quand il l'a vu, juste quand il l'a vu, tout commence par le voir, par la perception. Juste quand il l'a vu, il fut ému de compassion. C'est-à-dire que ses entrailles ont bougé. Comme lorsque vous avez la gastro. Hein? Vous sentez directement votre ventre bouger et ça vous dit que dans une minute, il faut bouger parce que si je ne bouge pas, danger de mort. Et vous commencez à bouger vite. C'est exactement la même chose. Vous sentez que vos intestins là sont remués pour te tarder vous. Mais c'est remué pour que vous puissiez poser un geste. Et quand les intestins du maître ont été remués, il s'est approché de la dame et dit que non, nos femmes ne pleurent pas. Il a alors touché le cercueil. Il lui a rendu son fils. Compassion pousse à l'action. C'est encore par compassion que Jésus-Christ a guéri les malades. Vous avez fait. La Bible dit dans Matthieu 14, 14 que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Même lorsque vous priez pour quelqu'un qui est en difficulté, qui a un problème, si votre intercession n'est pas accompagnée de la compassion, c'est-à-dire, si vous ne faites rien pour ressentir ce qu'il ressent, votre prière va s'arrêter au plafond. Donc, le secret pour une prière exaucée, une intercession exaucée,
Ne soyez pas pressés. On vous dit que cette sœur-là a le cancer. Vous vous mettez en esprit. Et si moi j'avais le cancer, comment je me sentirais? C'est que ma sœur souffre. On lui a dit qu'elle va mourir. Vous commencez même à pleurer dans votre cœur. Alors, quand vous criez à Dieu, frère, c'est le souffle de compassion qui est en vous qui va donner une énergie nouvelle à votre prière. Et le ciel va être attentif. Vous savez que lorsqu'on parle de la prière, il y a des prières qui partent justement des lèvres et qui s'arrêtent quelque part en l'air. Et il y a des prières qui partent du cœur. Quand la prière part du cœur, c'est lorsque vous avez d'abord eu de la compassion, hein, mon frère, mon cadre. Vous avez d'abord eu de la compassion envers la personne qui est dans le besoin. Je prie pour un célibataire pour qu'il puisse avoir le mariage. Mais d'abord, mon cœur est rempli de compassion. Et quand j'écris à Dieu, même si je ne prononce pas 1000 paroles, le peu de paroles que je veux prononcer, j'ai laissé mon cœur parler. Frère, la compassion, c'est quelque chose du cœur. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion, alors il a guéri. C'est que s'il n'avait pas eu la compassion, s'il n'avait pas évalué la souffrance de la personne qui était en face de lui, il n'aurait pas pu procéder à la guérison. C'est par compassion aussi, il y a beaucoup de textes que je peux vous donner, que Jésus-Christ a nourri, a donné à manger à la foule qui le suivait. Matthieu chapitre 15, verset 32 dit que, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Il anticipe même ce qui peut leur arriver. Il dit, regarde cette foule, à côté de moi, ils sont restés 3 jours en train d'étudier la parole de Dieu. Mais là, lorsque je les regarde, je vois qu'ils sont fatigués. Je ne peux pas les laisser aller. Jésus n'avait pas multiplié les pains juste pour faire un scénario de Hollywood. Il a multiplié les pains parce qu'il a eu de la compassion envers la foule. Il s'est mis à la place de cette foule. Il a dit que si je reste affamé pendant 3 jours et que maintenant je dois rentrer à pied, peut-être que les forces vont me manquer encore des routes. Peut-être que je peux tomber et mourir. Et lorsque je vais tomber et mourir, l'ennemi va saisir cela pour dire où est-ce que vous étiez? Vous avez été là-bas, non? Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Frère, sœur, vous savez parfois que nous avons des autos. Et lorsque nous voyons un frère, une sœur qui est venu adorer avec nous, quand j'ai dans ma voiture 3 places de disponibles, même s'il ne m'a pas demandé, mais je le vois marcher dans la rue. Si j'ai la compassion, surtout l'hiver, si j'ai la compassion, je me dis, si moi, je marchais sous ce froid à pied et que je voyais mon frère à moi, mon frère de mon église, qui passe avec une voiture, qu'est-ce que j'aurais souhaité le voir faire? J'aurais souhaité le voir peut-être s'arrêter, me donner un livre, parce qu'il aurait compati à ma situation. Il y a des exemples, frère, que nous pouvons multiplier. Mais c'est par compassion qu'on peut faire du bien à quelqu'un. Lorsque vous regardez celui qui souffre dans la rue, si vous avez de la compassion, alors ça va vous pousser à poser un geste. J'insiste sur la deuxième vérité, que la compassion pousse à l'action. Vous ne pouvez pas dire que j'ai de la compassion juste un refrain de la musique dans la bouche. Oui, j'ai de la compassion, j'ai de l'amour. Non, comme parfois les chrétiens chantent à l'église, je n'ai pas d'ailleurs, j'ai épousé Jésus. Très bien, c'est ton époux qui l'a épousé. Mais il faut des actions pour prouver que tu l'as épousé. Si tu as un époux à qui tu ne donnes pas à manger, tu as un époux que tu ne consoles pas, tu as un époux à qui tu n'envoies pas un sourire, est-ce qu'il va sentir qu'il est époux dans la maison? Non, il ne va pas sentir qu'il est époux. Et de même, si tu as épousé Jésus-Christ, il faut que les gestes prouvent que, effectivement, tu as épousé Christ, le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation pour notre Dieu? Merci. C'est par compassion que le papa du fils prodige a accueilli ce garçon à la maison, bien qu'il ait été rebelle. La Bible dit que, dans Luc chapitre 15, verset 20, et il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Quand il fut ému de compassion, qu'est-ce qu'il a fait? il courut se jeter à son cou et le baisa.
Tant que le père n'avait pas été ému de compassion, si ce papa n'avait pas été ému de compassion, rassurez-vous qu'il n'aurait même pas levé sa jambe pour partir.
Mais parce qu'il a été ému de compassion, il a posé un geste, il est allé embrasser, il est allé baiser son enfant, malgré que c'était un petit bandit, un petit rebelle. Compassion, frère. Il s'est mis dans sa peau, il dit, mais si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais ressenti? Je le disais tout à l'heure, que Job a dit que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Tout celui qui souffre, même quand il abandonnerait la crainte de l'Éternel, même s'il est devenu un païen, mais parce que vous êtes son ami, s'il souffre, il a droit que vous puissiez le consoler. Il a droit que vous puissiez compatir avec lui. Parfois, il y a des gens qui se demandent pourquoi certains frères courent à gauche, à droite pour aller consoler. Non, non, quand on va consoler quelqu'un qui est malade, quand on va consoler quelqu'un qui est éprouvé, quand on a consolé quelqu'un qui a un problème quelconque, c'est juste parce que le cœur est rempli de l'esprit de compassion. Ce n'est pas pour un intérêt quelconque, si ce n'est que l'intérêt du royaume. Et Dieu veut que nous puissions tous développer cet esprit de compassion, parce que c'est ça l'esprit qui était dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez encore lire tout le Nouveau Testament, vous trouverez que ému de compassion, ému de compassion, ému de compassion. Il faut que vous ayez la compassion. La compassion est une vertu. Vous êtes appelés à développer la compassion. C'est une recommandation de notre Père et de notre Dieu pour que nous puissions réellement être déclarés ses enfants. La troisième et la dernière chose, c'est que la compassion bouscule les agendas, la compassion bouscule les budgets. Vous ne pouvez pas dire que j'ai de la compassion si vous n'êtes pas disposé à bousculer votre agenda. Cet homme, il voyageait, mais il n'avait pas prévu dans son agenda que quand je vais être à mi-chemin entre Jéricho et Jérusalem, je vais trouver un homme qui aura été agressé par des bandits. Je vais m'arrêter pour 30 minutes pour lui venir en aide. Non, ça ne figurait pas dans son agenda, frère. Mais à cause de la compassion, il a accepté de faire une ouverture dans son agenda pour venir en aide à l'autre personne. Amen. Savez-vous, frère, sœur, combien de fois nous refusons de rendre visite à notre frère, de consoler un ami, juste parce que nous présentons notre agenda pour dire que non, je suis déjà plein pour toute la semaine. Je quitte le matin, je vais ici, je vais là-bas, je vais là-bas. Frère, sœur, dès que l'esprit de compassion envahit votre cœur, vous serez à mesure de trouver un petit temps de break pour lui faire du bien. Sans être à mesure de bousculer son agenda, il est difficile de vivre la compassion en pratique. Et sans aussi être à mesure de bousculer son budget, lorsque ce Samaritain s'est rendu dans son voyage, il n'avait pas prévu dans son budget que je croiserais un homme qui sera torturé par les bandits et je vais sortir de l'argent pour donner. Il n'en avait pas, mais il a mis la main dans la poche, il a sorti deux deniers, il l'a soigné, il a laissé à l'hôtelier et lui a dit, ce que tu pourras ajouter de plus, ce qui prouve qu'il n'en avait pas assez. Frère, sœur, peut-être que vous, pour secourir votre frère, vous faites des calculs. Mais des calculs, surtout à cette époque. À cette époque où tout est budgétisé. À cette époque où tout est calculé. Que je touche $300, j'ai ma passe, j'ai le lait de mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela, et il ne me reste rien. Frère, la Bible dit que donnez et il vous sera donné. C'est surtout dans des conditions comme ça. Et le maître dit, quand est-ce que vous m'avez donné? Oh, mais lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand je n'avais pas de chemise, vous m'avez donné une chemise. Quand j'étais affamé, vous m'avez nourri. Entrez et asseyez-vous à côté de moi, bon et fidèle serviteur. Frères, sœurs, bien-aimés, je veux vous dire qu'en tant qu'Église, nous devons, un, être prêts à nous approcher de nos semblables, non seulement les membres de l'Église, mais toutes les créatures de Dieu. Parce que vous regarderez à la fin de cette parabole, le maître a demandé au docteur de la loi, qui est le prochain pour toi? Il a dit, qui est le prochain de qui? L'homme qui a été tabassé a été prochain de ces trois. Il a dit, de celui qui l'a secouru. Ça, c'était pour nous enseigner que nous serons prochains à tout celui à qui nous viendrons à l'aide. En tant qu'enfant du royaume, développons cet esprit de compassion. Soyons disposés, un, de nous approcher, deux, de poser des gestes concrets, trois, d'être même disposés à bousculer et nos agendas et nos budgets. Alors, nous exercerons la loi de notre Dieu dans notre vie. Que notre Dieu vous bénisse. Merci.
Accepte de guérir au nom de Jésus-Christ. Père,